Radio SV.
Le meilleur du son.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio SV. Nous sommes le lundi 30 janvier et il est 21h. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Ça fait un moment que je ne suis pas passée derrière le micro. Je crois bien que la dernière fois, c'était en mai ou en juin de l'année dernière, quelque chose comme ça. Donc ça remonte un petit peu. Alors ce soir, j'ai décidé d'aborder le thème du drag. Donc au programme de l'émission aujourd'hui, je vais vous parler du choix de ce thème. Je vais aussi essayer de voir avec vous qu'est-ce que le drag. Et ensuite, nous parlerons de l'histoire du drag. Et quelques définitions nous seront données par ma co-animatrice. Nous parlerons évidemment des clichés et de la réalité, car c'est un milieu qui est rempli de préjugés. Et j'aimerais bien déconstruire un peu les vôtres. Et puis nous parlerons aussi de la popularité et de la démocratisation que connaît de plus en plus cet art depuis quelques années. Alors j'ai pu rencontrer pour cette émission quelques personnes du milieu qui ont accepté de m'aiguiller, de me renseigner et qui ont accepté de répondre à mes questions. Donc nous aurons avec nous Violetta Xidermi, Fragile de France et Léo Roméo. Et puis j'ai à mes côtés ce soir Lucie Le Belair. Bonjour Lucie.
Bonjour Camille.
Alors comment tu vas ?
Ben, ça va bien et toi ? C'est super.
Ça va super. Ça fait longtemps qu'on n'est pas passé en animation.
Oui.
Qu'est-ce que ça te fait ?
Je suis contente d'être là parce qu'en plus le drag, moi je connais pas trop. Enfin je suis pas super calée sur le sujet du coup c'est pas mal. Ça va être intéressant.
Tant mieux. J'espère que vous aussi chez vous cette émission va vous plaire. Et à la réalisation, nous avons Gurvan Rouxel qui nous accompagne. Vous pourrez évidemment retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio Saint-Vincent. Et je tiens aussi à préciser que toutes les interviews de ce soir seront disponibles en intégralité sur la chaîne YouTube Radio Saint-Vincent. Et je vais vous demander d'être bienveillant à l'égard de cette émission et des personnes que j'ai interviewées. Bref, on commence.
Radio SV. Sound and Vibes.
Alors pour commencer, j'aimerais vous parler un peu de mon choix pour ce thème. J'avoue que ma culture à ce sujet était assez proche de zéro. Évidemment, comme tout le monde, je pense, j'avais entendu parler du drag, j'avais entendu parler de l'émission Drag Race, mais je m'étais jamais vraiment renseignée sur le sujet. Je connaissais uniquement ce qu'on en dit sur les médias et sur ce que la société en dit, en fait. Et puis, il y a quelques semaines, je crois que c'était à Noël, je cherchais encore de quoi j'allais vous parler ce soir, et je cherchais une série à regarder. Et mon meilleur ami, qui a suivi quelques saisons de RuPaul Drag Race, m'a conseillé de regarder la première saison de Drag Race France, sortie en juin. Je crois que c'était à peu près ça, et c'est sorti sur France Télévisions. Et j'ai adoré. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire le thème de mon émission. Donc voilà, je suis honnête avec vous, je vais pas vous imposer une vision du drag, une science exacte, parce que je serais vraiment pas bien placée pour ça. Je vais juste vous partager mes recherches, ce que j'ai pu apprendre en discutant avec Violetta Xidermi, Fragile de France et Léo Roméo. Et j'espère vous apprendre des choses ce soir, et ce que ça donnera envie à certains d'entre vous de vous renseigner un petit peu plus. Et pourquoi pas aller voir un show de drag. Mais bon, c'est bien gentil, pour l'instant je ne vous ai pas encore parlé du drag. Lucie, est-ce que tu aurais une définition du drag ?
Du coup, comme ça, quand tu me poses la question directement, je pense d'abord au divertissement, notamment pour les gens qui viennent assister à des shows. Et puis après, pour les gens qui le pratiquent, j'imagine que ça peut devenir une identité pour eux. Et qu'ils s'identifient avec ça, quoi.
D'accord. Alors, si on essayait de donner une définition assez large, je pense que t'as quand même pas mal dit que c'était un divertissement. En fait, c'est un art. C'est l'art de se transformer en une femme, un homme, un personnage, une créature. Ou alors sans se donner de genre spécifique. Donc on peut, avec du maquillage ou pas, une perruque ou non. Et en fait, le drag, c'est assez libre. Il n'y a pas vraiment de code. Tu peux être qui tu veux, avec le physique que tu veux, le maquillage que tu veux, les costumes que tu veux. Le tout, c'est de créer un personnage qui nous plaît et avec lequel on est à l'aise pour les shows. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris en discutant avec mes invités. Violetta Xidermi, est-ce que tu peux nous donner ta propre définition du drag ?
J'avais pour idée que le drag venait d'une expression de Shakespeare qui était une abréviation de Dress as a Girl. Du coup, c'était l'idée de parler d'un travestissement. Mais on a bien vu que le drag était beaucoup plus que ça, que l'idée d'un homme qui se transforme en femme. C'est, C'est un art qui est ouvert à toute personne, à tout genre confondu. Et en fait, c'est pas simplement l'idée de représenter des codes féminins. On peut faire tout avec le drag. C'est un art qui questionne tellement les codes sociaux et du genre. Je pense que l'idée de la transformation, elle est forcément présente dans le drag, mais que c'est très ouvert, en fait. Il y a plusieurs livres qui considèrent qu'on peut faire même de la lecture du drag à travers l'art, etc.
Et toi, Fragile, qu'est-ce que tu en penses ?
Je vais reprendre une phrase de Lewis Raclet, qui est un drag king parisien pour commencer, qui le définit comme une performance de genre. Voilà, moi j'y allie un côté vraiment scénique, spectaculaire. Je pense qu'il y a quelque chose de très diversifié, mais que ça se rejoint sous cette performance scénique du genre.
Alors pardon, c'était Léo Roméo qui nous a donné une jolie définition. Et du coup, bah, maintenant on écoute la définition de Fragile de France.
Alors c'est abstrait. Parce que pour moi, le drag, c'est un art plutôt de scène, même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça, qui permet de mettre en jeu une identité qui va exorciser des codes sociaux qui peuvent être de genre, mais pas que. Parce qu'il y a des drags genrés comme king et queen ou non-binaires, mais aussi des drags qui sont plus créatures ou clowns et qui vont s'apparenter à des identités qui, même si elles ne concernent pas le genre, vont quand même concerner des schémas socioculturels. Et surtout, c'est un art qui est un lieu de refuge pour des personnes qui n'ont pas forcément, en dehors de ces occasions-là, la possibilité de parler ou de s'exprimer, ou qui sont invisibilisées, encore une fois, ou discriminées. Pour moi, qu'est-ce que le drag ? C'est aussi un peu kiffer du drag.
Alors, personnellement, je connaissais uniquement les drag queens, donc le fait d'exprimer une féminité à sa propre manière, sa propre vision de la féminité. En fait, c'est une performance artistique. J'ai découvert aussi qu'il existait les drag kings, les drag queers et les club kids. Lucie, est-ce que ça te dit quelque chose, tous ces termes ?
Alors, ça fait beaucoup de termes. Drag, alors tu m'as dit drag king.
Drag king.
Drag king, si on pense au drag queen, peut-être que c'est quelqu'un qui se déguise en homme, du coup.
Alors oui, du coup, le drag king, c'est l'opposé du drag queen, donc c'est représenter sa propre vision de la masculinité à sa manière. Et du coup, drag queer, est-ce que tu aurais une idée ?
Eh bah, je connais le queer, je crois que c'est quand tu es orienté sexuellement par... le sexe... Je sais plus. J'ai pas envie de dire des bêtises.
Alors du coup, drag queer, c'est un personnage non-binaire qui n'exprime pas une féminité ou une masculinité. Donc être non-binaire, c'est lorsqu'on ne s'identifie à aucun genre, donc ni femme, ni homme. Et Violetta va nous expliquer ce qu'est un club kid.
Je voulais aborder les différentes catégories de drag aussi qui existent. Principalement les drag queens, les drag kings, qui du coup sont principalement... un travail autour du mascu, de l'identité masculine, etc. Moi, je me considère plus comme drag queer parce que je suis non-binaire et que je fais plein de bordel là-dedans. Et il y a aussi, des personnes qu'on catégorise de club kid. Ça vient pas mal des jeunes qui se maquillaient en boîte de nuit, en fait. D'où le nom club kid. En fait, c'est des maquillages très, très, très stupéfiants avec des fois des gros costumes. On catégorise beaucoup de camp, beaucoup autour du kitsch. Et en fait, il y a souvent l'image du clown queer qui revendique ses valeurs et son identité.
Merci beaucoup Violetta, on te retrouve juste après pour une pause après une pause musicale pour que tu te présentes.
Prêt pour la musique ? SB Radio te lâche le tube du moment.
Et tout de suite, c'est Main Girl de la chanteuse québécoise Charlotte Cardin.
I'm the call at one, but you just wanna visit. I'm the call for some kind of like an exit. Team main girl, team main girl, team main girl. I'm the call at two, but I know you never ask, 'cause I've been the one you assume will last. Past your main girl, past your main girl, past your main girl. Now I'm just a pretty face. Who can help you? Just a pretty face.
Don't leave me hanging on, you miss. You misunderstood me all. would call at three, but I guess you thought I'd say, hey there, baby, come and walk my way. Who's your main girl? Who's your main girl? Who's your main girl? When it comes to four, I'm not there anymore. I'm in Technicolor painting line before your main girl. Your main girl, this insane world. So now I'm just a pretty face. Who can help you? Just a pretty face. Who can help you get your shit together in your own face? Don't leave me hanging on. You misunderstood me.
C'était Charlotte Cardin et Main Girl, disponible sur l'album du même nom, sorti en 2017.
Radio Saint-Vincent.
Radio Saint-Vincent.
Purement breton.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Radio SV, il est 21h12. J'espère que vous passez une bonne soirée en notre compagnie. Ce soir, on parle du drag. Et tout de suite, on continue avec notre première invitée de la soirée, Violetta Xidermi. Je laisse la parole à Lucie.
Effectivement, alors il y a quelques jours, on a interviewé Violetta. Donc Violetta, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ?
J'ai eu beaucoup de prénoms, et celui qui est le plus présent, en tout cas dans ce que je fais en termes de drag, c'est Violetta Xidermi, qui a un jeu de mots du coup avec la taxidermie. Également un jeu de mots avec le viol, ce qui est assez violent du coup pour me présenter. Et c'est un prénom qui est drôle, mais aussi engagé politiquement et socialement, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de revendiquer. Ça me permettait de dénoncer des choses comme le non-consentement, la chasse, etc., que je mets pas du tout au même plan, mais qui pour moi sont des actes à défendre.
Et comment le drag est arrivé dans ta vie ?
J'ai toujours eu des interrogations sur beaucoup de sujets sociaux et identitaires. Et en fait, j'ai commencé les Beaux-Arts de Rennes. Je me suis dit que les Beaux-Arts, c'était le seul moyen de faire du drag dans une école, parce qu'il n'y avait pas d'école de drag encore en France. J'ai pu, à travers ces études-là, aborder plein de sujets, à travers plein de pratiques, la vidéo, l'illustration. Et en fait, j'ai commencé vachement à vouloir interpréter les personnages que je dessinais. Je pense que ça m'a pas mal aidé pour le maquillage, etc. Je me suis fait plus de réseaux en bas, en art, et du coup je sortais beaucoup tout seul, et j'ai rencontré les personnes qui commençaient à faire des cabarets, etc., sur Rennes, dans des petits bistrots, et j'ai rencontré Evaporé comme ça, en partageant une scène. C'est avec Evaporé que je me suis entendu tout de suite à Rennes. Je la porte en très haute estime, et c'est vraiment une personne à rencontrer sur Rennes. J'ai commencé juste à faire du go-go dancing en dessinant sur scène, et ça a fini par des morceaux de lip-sync et du travestissement.
Et est-ce que ton personnage a évolué depuis le début de ton art ?
Alors, il y a une évolution constante dans mon personnage, parce que c'est particulier avec mon drag, c'est que j'ai du mal à le définir encore. Je me considère comme drag queer, qui a pas envie d'avoir une image particulière. J'aime bien jouer avec les codes et de la féminité, et de la masculinité, être à la fois une créature et des fois une femme à barbe. En fait, je m'inspire beaucoup de certaines imageries. Ça peut être tantôt des rockstars et des chanteurs de groupes de métal, et des fois des vieilles actrices hollywoodiennes comme Betty Davis, et me dire... Un jour je serai telle personne et l'autre, voilà. C'est pour ça que j'avais un peu un problème avec mon prénom, c'est qu'il est genré et j'aurais voulu peut-être avoir un nom de scène non genré pour pouvoir interpréter plus librement plein de trucs. Moi, ça m'empêche pas d'être Violetta et d'être un putain de monstre. Et du coup, en fait, j'ai voulu tout le temps. C'est un combat de tous les jours de se mettre en drague et un jour, on peut se mettre en elfe démoniaque et l'autre jour, en popstar si on veut.
Et alors, du coup, la question qui m'intrigue vraiment, c'est comment on prépare un show ?
Ça dépend beaucoup, beaucoup du style de drague, en fait. Des fois, je vais me recouvrir entièrement le visage en blanc, travailler sur des cheveux, travailler sur des accessoires aussi. En fait, il y a peut-être tout un processus avant le maquillage qui est là aussi, c'est de la recherche de vêtements et de costumes. Des fois, on a l'idée d'une performance et du coup, on veut la réaliser de telle manière, avec tel costume. Donc, il faut trouver le costume adéquat, il faut préparer son morceau, donc le travailler, le chorégraphier. Et avant de passer au maquillage le soir même, ça peut prendre pas mal de temps. Moi, je sais qu'un truc qui m'importe beaucoup dans mon drag, c'est de trouver une manière écologique et économique de le faire. Moi, je coupe pas encore très bien. J'aimerais le faire plus pour créer vraiment des pièces uniques, parce que le maquillage fait vraiment l'importance du drag, mais ce qu'on porte aussi.
Peux-tu nous parler de la scène rennaise dans le milieu du drag, parce que je ne connais pas.
À Rennes, on
du...
commence à bien être sollicité dans plusieurs bars, etc. On a nos chouchous. On a fait des belles scènes quand même, comme l'étage aux libertés avec les filles pour la Pride, la Nos Pride. On est de plus en plus à vouloir lancer des shows, etc. Il y a Eva qui lance certains shows, Marie Babette qui se met aussi à lancer des trucs. Enfin, j'évoque des prénoms, mais je vous invite vraiment à regarder sur Instagram les drags rennaises. Et René, mais du coup non, ça va, il y a quand même pas mal d'opportunités, mais on n'a pas encore de lieu vraiment dédié à ça. Je sais que c'est un peu dans le projet de certains, mais de peut-être avoir vraiment un bar cabaret, ce serait vraiment bien pour faire des vraiment belles revues avec des belles lumières et nous dédier à fond au public.
Bah, trop chouette, merci. Et pour finir, du coup, est-ce que tu as un conseil pour les personnes qui voudraient se lancer dans le drag ?
Que vous soyez de Rennes ou pas, nous on est très ouverts à répondre aux messages. Des fois on n'a pas trop le temps non plus, mais en fait c'est un plaisir de vous trouver en bar. La communauté que je côtoie est très accueillante et très ouverte d'esprit. Du coup faut pas hésiter en fait. Moi j'ai commencé beaucoup avec des produits que j'achetais chez Nose. Faut vraiment pas hésiter et c'est normal de pas être polish. En fait, ce qu'il y a c'est qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les images sont assez retouchées et on a envie d'être cette personne hyper lisse, hyper incroyable, parfaite, avec des cheveux hyper bien plaqués, machin. Pour moi, le drag, c'est assez rock'n'roll aussi. Et faut pas avoir peur de se lancer, parce qu'on se juge déjà trop. Et faut juste des fois essayer. Et un jour ou l'autre, on sera forcément contente de soi. Et je pense que tout le monde peut faire du drag et que c'est vraiment ouvert. Et si ça peut nous donner un prétexte de boire un coup ensemble, faut y aller.
Encore une fois, merci beaucoup, Violetta Xidermi, de nous avoir accordé du temps. Et donc tu restes avec nous pour la suite de l'émission. On rappelle qu'on peut te suivre sur Instagram, c'est Violetta Xidermi, tout attaché du coup. Et on fait une courte pause avant que je vous explique quelques termes et que Camille nous parle de l'histoire du drag en France.
Radio Saint-Vincent, au Parc du Tabor.
Vous êtes au lycée et vous hésitez encore pour votre orientation ? Ne cherchez plus, l'ICR est fait pour vous. L'Institut catholique de Rennes propose un panel de licences post-bac. Droit, histoire, lettres, AES, anglais. Ces parcours apportent un vrai plus. Ils sont faits pour tous les goûts et ouvrent vers l'international. Les atouts de l'ICR ? Les cours en petits effectifs, un suivi du contrôle continu, des stages, une ouverture vers le master. L'ICR, c'est aussi une bonne ambiance, des assos, un campus pour une vie étudiante épanouie. L'Institut catholique de Rennes, votre fac à taille humaine.
Ça, c'est Mathis. Pour le moment, il est encore lycéen et passera son bac général dans quelques jours. Mais ce qui le rend si heureux, c'est le courrier qui vient d'ouvrir. Oui, oui, on se calme, Mathis. Mathis a été accepté à l'ICAM et deviendra ingénieur généraliste. Les matières scientifiques, ça a toujours été son truc. Et grâce à l'ICAM, il abordera sereinement ses deux années de BTS. En plus, Mathis savait que s'il était pris à l'ICAM, il retrouverait ses camarades Arthur et Titouan. L'un est en STI 2D et l'autre en STL. Ils sont tous les deux motivés pour obtenir un BTS et rejoindre ensuite une entreprise en alternance pour l'obtention du diplôme d'ingénieur. Donc oui, Mathis est vraiment heureux. Il faut dire que depuis qu'il avait participé aux journées d'immersion à l'ICAM, il ne parlait plus que de ça. Bon, Mathis, ça devient gênant maintenant.
Bienvenue. bienvenue à Rennes.
Pourquoi Rennes?
Le beurre, la galette, le beurre, la galette.
Je venais à Rennes, donc je voyais ce bâtiment-là.
Radio Saint-Vincent, au cœur de Rennes Métropole.
Alors il est 21h20 sur Radio ASV et on est avec Lucie qui va nous expliquer quelques mots que vous allez pouvoir entendre tout au long de cette émission et qui sont très importants à connaître.
Alors oui, donc cette fois-ci j'ai fait mes petites recherches parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de mots qu'on connaît pas forcément ou alors qu'on a déjà entendu mais sans vraiment savoir ce que ça veut dire finalement. Et donc je vais vous les expliquer, enfin tenter de vous les expliquer. Ça va être des mots qui concernent le domaine du drag principalement, enfin oui, le domaine du drag tout court, et des mots importants pour notre connaissance de la société de manière générale. Donc on commence avec l'appellation cis qu'on utilise dans le cas où le genre que l'on nous a assigné à la naissance est celui qui nous correspond et qu'on ressent être, donc auquel on s'identifie. Et donc à l'inverse, contrairement au terme trans, où là justement le genre dans lequel on s'identifie n'est pas celui qui nous a été assigné à la naissance. Donc par exemple, on est homme aux yeux de la société, entre guillemets, mais on se sent être une femme. Et donc dans ce cas-là, on parle de trans. Pour mieux évoquer cette assignation de genre à la naissance, basée sur les organes génitaux seulement, on va employer les termes AFAB et AMAB. Donc pour assign female at birth ou assign male at birth. Donc en français, assigné fille ou garçon à la naissance. Et donc ensuite, comme l'a brièvement expliqué Camille plus tôt, on parle aussi souvent d'une personne non-binaire quand elle ne s'identifie pas à un genre en particulier. Elle peut se sentir ni femme ni homme, sinon les deux, ou bien une combinaison des deux. Et on entend aussi souvent l'appellation queer, qui dans ce cas-là désigne une personne dont l'orientation ou l'identité sexuelle ne correspond pas au modèle social dominant hétéronormé. Donc ensuite, le terme mainstream est utilisé quand on parle d'une pensée ou d'une croyance, notamment dans la culture populaire, qui est suivie et ou acceptée par une majorité de personnes et qui souvent est relayée par les médias. Ensuite, donc, le nom du personnage drag a sa propre expression pardon, et se nomme aussi le drag name. Et pour finir, dans le drag, on assiste souvent à des lip-syncs. Donc notamment dans l'émission Drag Race, où il y a des battles de lip-sync. C'est une pratique qui consiste, durant une prestation sur scène lors d'un drag show, à danser sur une musique tout en mimant les paroles avec les lèvres, en parfaite synchronisation avec la chanson.
Bah, merci beaucoup Lucie, je pense qu'on en a tous appris quelques définitions. Moi je vais vous parler un peu maintenant de l'origine du drag, donc de la naissance des drags, en tout cas c'est ce que j'ai pu trouver lors de mes recherches. Donc souvent on pense que le drag pourrait venir du théâtre shakespearien, parce qu'en fait les femmes à l'époque elles n'avaient pas le droit de monter sur scène et donc de jouer la comédie, et donc les hommes jouaient les rôles féminins, d'où l'expression « dress like a girl ». Donc le terme drag vient également des hommes travestis qui laissaient traîner leurs jupons et qui a donné le verbe « to drag ». Mais en réalité le drag ne vient pas que de là. Aux États-Unis, le drag apparaît vers 1880 avec William Dorsey Swan. Donc, c'est un activiste de la communauté LGBT et qui a créé les tout premiers bals. Il a malheureusement été emprisonné, je crois, dans les années 1890, mais il reste quand même une figure emblématique. Ensuite, le drag se retrouve aussi dans les minstrel shows. Donc ce sont des spectacles de travestissement racistes et sexistes dans lesquels des hommes se moquaient de la culture africaine ainsi que des femmes. Mais à l'époque, on ne parlait pas de drag, mais plutôt de travestissement. Et il ne faut pas oublier que à cette époque, le drag était interdit, surtout aux États-Unis, et que la communauté LGBTQ n'avait pas du tout de droits. Ce qui a donné lieu à de grandes manifestations pour que tout le monde soit égaux et ait des droits. Donc la plus connue, vous avez dû en entendre parler, c'est la manifestation de Stonewall en 1969, qui donne naissance à la Pride qu'on connaît actuellement. En France, le drag s'est également inspiré de la culture des cabarets, très présente au début du XXe siècle, par exemple à Pigalle, je crois qu'il y a un cabaret qui s'appelle Chez Michou. Et d'ailleurs, Marianne James a été une des, et est toujours d'ailleurs une des figures emblématiques du drag français. Mais je ne peux pas vous parler de toute l'histoire entière du drag dans cette émission, donc je vais vous inviter à aller voir la vidéo de Gaïa Impériale sur l'histoire du drag qui, je trouve, est très bien expliquée et qui est bien plus développée que cette chronique. Et tout de suite, une pause musicale sur Radio SV. On se retrouve juste après avec Fragile de France.
Radio Saint Vincent.
Et tout de suite, le dernier titre de Miley Cyrus sorti il y a quelques jours, c'est Flowers sur Radio SV.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn.
C'était Flowers de Miley Cyrus qui bat actuellement des records d'écoute depuis sa sortie il y a un peu plus de 2 semaines.
SV Radio. SV Radio. Sovibe R&B. RSV. Au plus proche de toi.
Vous êtes toujours sur Radio SV, il est 21h28 et ce soir on parle du drag. N'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat, je crois TikTok aussi, et la chaîne YouTube. Je rappelle que toutes les interviews seront diffusées en intégralité sur les réseaux. Donc nous sommes en compagnie de Fragile de France qui a accepté de répondre à nos questions. Donc Fragile de France, drag queen à Rennes, bonjour, est-ce que tu peux te présenter ?
Moi, je suis Fragile de France, je suis une drag queen et je suis une femme cis. Je fais du drag depuis 3 ans et demi. J'ai commencé le drag en gros septembre-octobre 2019, je crois. Mon drag est assez basique, ça veut rien dire, mais c'est plutôt exploration des codes de genre féminin. On est vraiment sur un drag genré qui parle de ça, parce qu'il y a plein de types de drag qui existent.
Et d'où vient ton drag name ?
Alors c'est un peu une longue histoire. En gros, j'essaie de me chercher un peu un drag name quand j'ai commencé le drag. Et donc en fait, dans la vie, je suis artiste plasticienne, comme Violetta d'ailleurs. Quand on fait de l'art contemporain, on travaille, ou on essaie de travailler du moins, avec ce qu'on appelle les FRAC. C'est les fonds régionaux d'art contemporain. Et il y a plein de FRAC. Il y a le FRAC Bretagne, il y a le FRAC Normandie et le FRAC Île-de-France, auquel j'étais abonnée sur Instagram. Et à chaque fois que je voyais des stories du FRAC Île-de-France, je lisais Fragile de France. C'est comme ça vraiment la vraie origine de ce nom. Et je me disais, mais Fragile de France, ça marche trop bien en fait. Enfin, ça marche trop bien pour moi en termes de morphologie et même en termes d'identité, l'identité de la femme que je me sens être aussi vis-à-vis du monde, quoi. Même si c'est pas du tout ma mentalité, mais la manière que j'ai l'impression que je suis perçue par le monde.
Et à quel moment de ta vie le drag est apparu ?
Je pense que je faisais du drag avant ça, depuis peut-être 2004, j'en sais rien. En gros, j'ai toujours fait un peu du drag en sachant pas comment nommer ce que je faisais, parce que en tant que fille à l'époque et femme ensuite, pour moi, je pouvais pas faire de drag. C'était un peu comme du drag, mais ça avait pas de nom. Et aussi, il y a un truc qui est assez particulier, c'est que j'ai toujours eu la sensation, en tant que jeune fille et jeune femme qui aime bien justement... pas dans son quotidien, mais dans plusieurs identités, se maquiller, jouer sur les codes de la féminité, d'être vue comme une pépette, comme un truc de nunuche. Donc ça a aussi longtemps été une activité qui était cachée, plus pour des raisons de vouloir être forte, de vouloir faire partie des filles qui étaient plus des garçons manqués, qui étaient à la dure pour avoir une place vis-à-vis des garçons et pas montrer justement tout cet attrait pour des questions de choses associées à la féminité.
Et ton personnage a-t-il évolué depuis 2019 ?
Je sais pas si Fragile a évolué. Je pense que Fragile a pris en technique de maquillage et en technique de costume. Mais de là à avoir évolué, je pense pas. J'ai peur un peu qu'elle ait perdu un truc de spontanéité, peut-être. Avec justement le fait d'être de plus en plus confrontée à travailler avec d'autres drags, tout ça, vouloir perfectionner des choses. Je commence juste à craindre qu'il y ait un truc un peu pop et un peu naturel qui... se soit estompé. J'espère que ça n'a pas complètement disparu. Mais de toute façon, c'est le risque quand on pratique quelque chose plus intensément.
Et est-ce que tu as un rituel avant chaque show ?
Moi, je suis un peu une psychorigide. La question de la technique et tout, ça veut rien dire, psychorigide de la technique, parce que je suis pas non plus une technicienne hors pair. Préparant, avant de me maquiller, c'est toujours, je me lave le visage, j'hydrate ma peau, je me lave les dents, je me mets du baume à lèvres et quand j'avais pas rasé mes cheveux, je préparais mes cheveux et après, une fois que ça s'était fait, je commençais à me make-upper. Mais du coup, j'ai surtout un rituel de soin de la peau et à partir du moment où je décide que l'heure à laquelle je vais me maquiller, je prévois de quoi manger juste avant. Comme ça, je sais que j'ai fait un repas parce qu'après, une fois qu'on est maquillé, c'est compliqué de manger. Et des fois, on doit se maquiller à 15h ou 14h pour performer jusqu'à minuit.
Et alors, la scène drag à Rennes est assez conséquente. Qu'est-ce que tu en penses ?
Assez soudé et le public est ultra fidèle. Après, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de public, ce qui est très très cool aussi. Peut être un peu délicat, il faut rester vigilant sur la nature du public, parce qu'il y a quand même une dimension freak show qui est indéniable. Pour l'instant, nous, on a un public bienveillant et un public de communauté LGBT, donc en fait, tout va bien. Mais en effet, la démocratisation du drag fait qu'on doit quand même faire attention à comment évolue ce public. Et sinon, entre les drags, franchement, c'est assez cool. C'est surtout super diversifié et tout le monde a de la place. Après, c'est pas parfait, encore une fois, tout le monde n'a pas la même visibilité. Et encore une fois, y a ce truc qui se joue. Après, ça, c'est moi qui le vois comme ça, mais peut-être que je me trompe. Mais ce truc qui se joue, je trouve que les personnes affables ont un peu moins de visibilité. Mais bon, c'est pas vraiment la faute des drags, c'est plus la faute de l'environnement. Mais sinon, on est assez soudés et c'est plutôt une ville où on a d'autres villes qui nous envient un peu notre scène drag en termes d'ambiance.
Et est-ce que tu as des projets pour l'avenir ?
Avec trois autres personnes et bientôt quatre, on a créé un collectif qui s'appelle Orpheline. Et ce qu'on espère, c'est vraiment continuer de travailler en collectif. Moi, ça m'intéresse pas trop d'être un électron libre dans le drag, parce que ce qui me plaît, c'est de pouvoir monter des petits spectacles avec mes copaines, et donc qui sont Vésuvialogue, Clairvoyance, Fred and More. Et peut-être une cinquième personne qui est encore en teasing de son drag. Mais l'idée, c'est vraiment de s'amuser ensemble et Et je crois que plus ça va et moins le drag en tant que juste moi toute seule qui vais performer à droite à gauche m'intéresse. Et plus le fait de créer des projets qui ont une cohérence artistique, c'est important pour moi.
Merci Fragile de France d'avoir répondu à mes questions. On invite les gens à te suivre sur Instagram, donc c'est Fragile de France tout attaché. Vous pourrez retrouver l'interview en intégralité dans quelques jours sur YouTube, donc sur la chaîne de Radio Saint-Vincent. Vous pourrez en apprendre un peu plus sur Fragile de France et sur le drag. Et donc Fragile, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Lucie, je reviens vers toi.
Oui, Camille.
Qu'est-ce que tu penses de l'émission jusque-là ? Ça t'intéresse ? Ça te plaît ?
Eh ben, j'en apprends plein. Je apprends plein de choses, donc c'est cool. Et ça me donne vraiment envie de d'aller voir un show, enfin de voir concrètement, directement ce que ça donne, quoi. Ça donne envie d'aller voir.
Bah moi aussi. Et mes invités m'ont dit qu'il y en avait beaucoup à Rennes. Qu'il y en avait toutes les semaines, donc c'est l'occasion. Vous aussi, chez vous, si ça vous donne envie, n'hésitez pas à aller voir des drag shows, parce que je pense que c'est très intéressant.
Bah oui, puis comme quoi, on n'est pas au courant de ça, quoi. Enfin, si tu n'es pas dans, enfin, je sais pas si j'ai envie de dire dans le milieu là ou quoi, mais enfin, il y a aucune, enfin, j'ai l'impression qu'il y a pas de communication dessus, quoi.
Bah c'est vrai que comme elles ont dit, elles ont un public très fidèle et il faut s'intéresser vraiment.
Ouais, c'est ça.
Je pense pour être au courant, mais du coup, nous on commence à les suivre sur Instagram et donc on va aller les voir pendant un drag show. On poursuit tout de suite avec Lucie pour une prochaine chronique sur les préjugés.
Balance ta dédicace à ta radio préférée.
Donc comme vous devez vous en douter et donc comme on l'a répété aussi depuis le début de cette émission, c'est vrai qu'il y a pas mal de clichés sur le milieu du drag, et la majorité des gens sont mal renseignés et du coup ça donne lieu à une multitude d'amalgames et donc c'est vrai que comme Camille donc l'a dit encore une fois depuis le début de l'émission, moi je connaissais pas vraiment le drag, enfin je connaissais uniquement ce qu'on en dit quoi, enfin ce qu'on en dit brièvement et donc je pense que si comme moi vous cherchez sur
vous cherchez sur Internet
ou sur YouTube des informations sur le drag, et vous vous rendrez compte que le sujet est assez peu documenté. Et donc il y a peu de documentaires, peu d'interviews. Et donc ça rejoint aussi ce qu'on disait à l'instant sur la communication en fait
Moi aussi, quand j'ai fait des recherches, c'est compliqué de trouver des informations en fait. Surtout en anglais.
On faut bien chercher quoi.
Ouais. Ouais.
Oui, surtout en anglais. Donc t'en as en français, mais moins.
Beaucoup moins.
T'en as en anglais, mais beaucoup moins en français. Oui. Et donc oui. Et donc, est-ce que toi, Camille, c'était quoi, enfin concrètement, tes préjugés, tes amalgames
Comme je l'ai dit au début, je connaissais uniquement le drag queen, et je pensais, comme on en dit dans la société, on voit surtout les hommes faire du drag queen. Mais en fait, il y a aussi des femmes qui font du drag queen. Mais voilà, c'est... en fait, comme je dis, je connaissais pas trop, j'avais pas forcément de préjugés ou d'amalgames. Voilà.
Mmh. Je pense que moi, c'est à peu près pareil. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans le même cas. Et donc on va continuer du coup à entendre parler les personnes concernées. Je pense que c'est la meilleure,
manière
de communiquer dessus. Et donc je vous propose d'écouter donc Fragile de France, Léo Roméo et Violetta Xidermi, qui vont nous parler des clichés qu'ils ont pu rencontrer au cours de leur carrière. Ils vont évidemment nous dire si les clichés est avéré ou nous donner la réalité des faits.
Un des trucs qui peut revenir assez fréquemment, alors c'est pas un cliché, mais peut-être un amalgame, les gens associent beaucoup la transidentité et le travestissement, le drag. Toutes les personnes qui font du drag ne sont pas transgenres, et évidemment que toutes les personnes transgenres peuvent faire du drag également. On n'est pas forcément aussi tous dans le spectre de la communauté LGBT aussi, des personnes hétéros peuvent faire du drag.
Chez les kings et les queens, il y a plein de choses différentes qui existent. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que dans la vie, personne n'a la même façon non plus de vivre ou de performer son genre. Par exemple, il y a des femmes qui vont être très féminines, tandis qu'on imagine le cliché de féminin, qui vont mettre du rouge à lèvres, des jupes, des talons, machin, d'autres pas du tout. Et il y a des queens qui vont faire des choses très différentes aussi. Pareil chez les kings, y a des types de masculinité très différents et on se les réapproprie différemment. Selon ce qu'on a envie d'en faire aussi, il y a des gens qui ont envie de porter un message très politique, de colère, qui vont pas le faire du tout de la même façon que les gens qui vont être dans l'humour complet.
On a tout le temps des réflexions sur le fait d'être une femme qui fait du drag queen. En gros, il y a deux choses. Il y a déjà une femme qui fait du drag, en règle générale. Et si jamais les gens savent que les drag kings existent, c'est bah, pourquoi tu fais pas du drag king ? Et moi, j'ai mis énormément de temps à me lancer dans le drag à cause de ça, parce que je me sentais pas légitime. À un moment, j'ai eu une sorte de déclic où je me suis dit, mais c'est ultra abusé et ultra misogyne de... en fait, mettre à l'écart les femmes du drag, et notamment du drag king, parce que ça veut dire qu'un homme ou une personne non-binaire pourrait être une drag queen et du coup commenter les codes de genre féminin, mais une femme ne peut pas parler de sa propre condition, même une femme cis, tu vois, pas forcément une femme trans. Au-delà des réflexions, il y a beaucoup d'invisibilisation. Pas méchamment, en fait. Par exemple, quand on fait la Pride et qu'on est tous en drag, et ben, les gens vont prendre des photos avec les drag queens qui soit sont des hommes, soit ont un passing d'hommes, même si c'est des personnes trans. Et nous, les personnes AFAB, du coup, bah, assignées femelles à la naissance, enfin femmes, les gens ne nous remarquent pas. C'est pas fait exprès, en fait. C'est une sorte d'imaginaire collectif de la drag queen transformiste, en fait.
On crée des personnages plus grands que nature. Tu vois, y a toujours un truc impressionnant qui soit féerique, diva, monstrueux. Donc il y a toujours ce truc quand même de personnage plus grand que nature, magique un peu. Après, oui, le mot diva aussi peut, peut avoir différentes connotations. Tu peux être une diva en ayant cette allure de grande dame sans forcément être dans les caprices de diva non plus. Et en même temps, ça peut être drôle de jouer le caprice de diva. Donc, dans le sens grand personnage qu'on admire, ou qui fait peur, ou qui fait rire, ou quoi, oui. Mais sinon, effectivement, j'ai après dans différents styles, quoi.
Bah alors, il y a un cliché, mais c'est plus ou moins avéré. Les drag queens et les drags, en général, sont en retard. Et c'est vrai. Alors, on met ça sur le principe de se faire désirer ou quoi, mais c'est juste qu'en fait, on est souvent en train de gérer mille trucs et que du coup, on est un peu en retard. En général, les artistes, en fait, c'est dur des fois d'être dans des deadlines et dans des délais.
Non, c'est pas vrai. Moi, je suis pas en retard. J'ai été 5 minutes en retard aujourd'hui, mais, mais je n'étais pas en drague.
Alors, on voit bien que Violetta et Léo Roméo ne sont pas d'accord sur le sujet du retard, mais je crois que ça dépend de chaque personne. Et que bah, c'est pas que chez les dragues qu'il y ait des gens en retard, n'est-ce pas, Lucie?
Oui, c'est vrai.
Alors, tout de suite, juste après cette petite pause musicale, on retrouvera Léo Roméo pour son interview.
Radio Saint-Vincent.
Et tout de suite, c'est Tissues, pardon pour mon accent anglais, de Young Blood sur Radio Saint-Vincent. Il est 21h42, restez avec nous jusqu'à 22h.
Everybody wants to feel love.
C'était le dernier titre de Youngblood, donc Tissu. N'hésitez pas à aller l'écouter sur les plateformes de streaming.
Radio Saint-Vincent, au Parc du Tabor.
Vous êtes toujours sur Radio SV, il est 21h45 et ce soir on parle du drag. Alors bonjour Léo Roméo, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de comment le drag est arrivé dans ta vie ?
Je suis Léo Roméo, je suis drag king principalement à Rennes. Comme beaucoup, moi j'ai pris connaissance de ce terme et ouais, des styles de performance qui recouvraient d'abord par Drag Race. Et puis ensuite, le drag king, je l'ai découvert quand j'étais à Montréal. Deux jours avant de partir, il y a une amie qui m'a proposé d'aller voir un show de drag king. Et du coup, c'était une compétition pour être le king of kings de Montréal. C'est après ça que j'ai eu envie d'essayer et ensuite, j'ai essayé d'abord au Beaux-Arts. On avait 3 jours de workshop autour du genre. On pouvait faire ce qu'on voulait. Et donc, avec quelques personnes, on a décidé de faire un mini-show de drag king. Il y avait 3 ou 4 numéros. Et après ça, j'avais une amie qui montait un collectif de drag king à Bordeaux avec qui j'ai un peu performé. Et c'est en revenant à Rennes, j'ai rencontré d'autres personnes qui faisaient du drag et j'ai recommencé à performer avec eux.
Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as construit ton personnage ?
J'aime beaucoup tout ce qui est littérature, histoire, mythologie, tout ça. Et donc, j'avais très envie d'avoir un nom qui rappelle un personnage classique. Et donc, à un moment, j'hésitais entre Lancelot, Roméo, des figures porteuses comme ça. Et quand j'ai fait mon premier maquillage au Beaux-Arts, j'ai des copains qui m'ont dit que je ressemblais à un autre gars de l'école qui s'appelait Léo. Et je me disais, putain, ça sonne super bien, Léo Roméo. Et du coup, ensuite, j'ai réfléchi. Leonardo DiCaprio a joué les Roméo. Moi, je suis Lyon. Bref, tout marchait très bien. Je pense que le nom a aussi donné une direction tout de suite au personnage. La première fois que j'ai performé, j'ai essayé d'avoir le truc hyper masculin pour tester, pour aller un peu au bout de ce que je pouvais dans le gars un peu grunge, un peu crado, machin. Et puis vite, c'était pas tellement ça que j'avais envie de faire. C'était plus les côtés dandy, crooner, le jeune premier, tout ça. Et donc, ce personnage de grand amoureux des autres et de la vie est né.
Et est-ce que ton personnage a évolué depuis le début ?
Déjà, y a une prise de confiance petit à petit, puis en testant différentes choses, tu vois ce que tu as envie de faire ou tu as envie d'emmener ton personnage. Esthétiquement, il y a eu une vachement de progression aussi. Puis, l'idée du personnage, elle est restée la même, d'avoir un mix de crooner, dandy, qui soit très amoureux de l'amour, des autres dragues aussi beaucoup, qui soit très charmeur avec le public, mais dans une façon très respectueuse et tout ça. Je pense que je me suis un peu détachée de la pression de le rendre très masculin. Je me suis laissée bouger comme je le sens et avoir ses paillettes et ses couleurs. Et voilà, c'est pas un mec qui a beaucoup de problèmes avec sa féminité et je trouve ça assez cool à performer. Puis ça me fait que je me prive pas aussi.
Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais sur scène ?
Les shows, alors déjà pour mes numéros, moi je chante en plus par rapport à d'autres drags. Alors pas forcément à chaque numéro, il y en a où le lip-sync est plus approprié, mais souvent je chante. Il y a eu des fois où je lisais des poèmes et tout ça aussi, mais parce que je trouve ça chouette de chercher aussi d'autres choses à faire, de proposer différentes choses au public. Souvent, ça va dépendre un petit peu de la thématique ou du contexte du show qu'on a. Par exemple, au mois de février, on va performer le 16, c'est juste après la Saint-Valentin, on s'est dit que peut-être on allait axer quelque chose sur l'amour. À Halloween, j'ai réfléchi à des choses pour Halloween. Ça va partir aussi de mes goûts, de ce que moi j'aime écouter, ou ce qui me donne envie de performer dans les musiques que j'écoute, dans les choses que je lis, dans les choses que je vois.
Et comment tu te prépares pour tes shows ?
J'aime bien réaliser mes costumes après. Enfin, je prends souvent des vêtements de base et après je peins dessus ou je les strasse ou je rajoute des choses. J'ai l'avantage de savoir peindre, donc c'est assez cool pour pouvoir agrémenter les costumes. C'est plutôt cool. J'aime bien ça en tout cas. Et voilà. Après le petit rituel chaque jour, ça va être le temps de maquillage. Alors selon les fois, souvent on essaye de se mettre à plusieurs avec les copains, avec Phébus Fragonard, avec qui je suis souvent, quand on a un show ensemble, on se prépare souvent ensemble. Sinon, c'est 1 à 2 heures de maquillage. Moi, je suis sur mon rythme normal. Je tourne souvent autour d'une heure et demie. Deux heures, j'ai vraiment le temps. Une heure, je suis vraiment pressée. et puis en filage de costume et c'est parti.
Et est-ce que tu fais partie d'une association ou alors tu comptes en monter une ?
Moi, je fais partie d'une association déjà, de Broadway French. Et du coup, dans Broadway French, il y a un petit groupe qui fait du drag, qui s'est réuni sous le nom de House of Bienveillance. Et donc, on a déjà cette structure d'association qui nous permet d'être en groupe et de travailler, en fait, plus professionnellement. Donc, je ne compte pas monter la mienne parce que j'en ai déjà une qui me convient très bien.
Et que penses-tu de la scène rennaise ?
Ce que je trouve qui est probablement la force de la scène rennaise, c'est qu'elle est très diversifiée. Elle n'est pas lisse, elle n'est pas dans un truc qui est hyper mainstream. Il y a des gens très originaux. Enfin, t'as rencontré Fragile et Violetta qui ont vraiment des drags très particuliers et qui sont leur force, leur originalité. Je pense à d'autres, Soleil aussi. Phoebus, avec qui je performe souvent, qui a vraiment son truc de drag queer particulier. Et pour autant, on a de super queens, on a Darling Millie, on a Anne-Marie, on a Giant, qui ont aussi chacun leur truc. Darling chante, Giant est une bête de scène en danse. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de personnalités différentes et uniques. Et je pense que c'est ça qui fait la beauté de la scène rennaise. Et puis on a plein de kings, c'est vachement bien les kings.
Eh ben merci beaucoup Léo Roméo, vous pourrez retrouver l'intégralité de l'interview. Donc je me suis trompée tout à l'heure, c'était pas sur la chaîne YouTube, mais sur le site de Radio Saint-Vincent, donc www.radiosaintvincent.fr. Elle sera disponible dans quelques jours, et l'émission entière aussi également. Et vous pourrez retrouver donc Léo Roméo qui nous parle un peu plus de lui, de ses shows et du drag en général. Donc l'émission touche bientôt à sa fin, mais juste avant de conclure l'émission, nous allons vous parler un peu de la popularité grandissante du drag.
Radio SV. Sound and Vibes.
Alors depuis une dizaine d'années à peu près, voire une vingtaine, le drag devient de plus en plus populaire et se démocratise. Et ça grâce notamment à RuPaul, qui a lancé l'émission RuPaul Drag Race aux États-Unis. Cette émission a donc permis au drag d'avoir une plus grande visibilité, d'éduquer les gens, et je pense que de nombreuses drags ont sauté le pas après avoir regardé Drag Race. Malheureusement, bien que l'émission se soit répandue dans le monde entier et que des pays comme la France ont aujourd'hui leur propre émission, Drag Race, cette émission véhicule quand même une certaine discrimination et on ne montre presque que des hommes se transformer en drag queen, alors tous les genres de drag n'y sont pas représentés, comme nous l'explique Léo Roméo.
Maintenant, ils essayent de commencer à un peu casser cette image. Il y a plus de personnes trans, il y a une femme cis, Victoria Scone. Par ailleurs, les kings, c'est toujours non. Hein. Drag Race France a voulu les montrer en les invitant dans la première saison. Et encore, on voit qu'ils ne parlent pas. On les laisse pas se présenter, on les voit, mais ils sont en fond pour un mini-challenge pour les queens. D'autant plus, ils ont tenu à les montrer déjà, donc c'était vraiment une volonté. Hein.
Bon, comme tu viens de nous le dire, Drag Race France a essayé de se diversifier et d'en montrer un peu plus sur le drag. Donc c'est vraiment cool pour une première saison, je trouve, surtout que moi j'ai commencé par regarder Drag Race France et je regrette pas du tout. Et je ne doute pas qu'ils vont essayer d'inclure tout le monde dans les saisons à venir. Et comme le dit Fragile de France, il y a quand même une très grande évolution depuis les débuts de Drag Race qu'il ne faut pas oublier.
Bon, Drag Race, ça a été fabuleux. C'est un truc qui est énormément critiqué aujourd'hui, surtout par les milieux drag underground. Mais il ne faut pas oublier ce que ça a apporté au drag, c'est-à-dire énormément de choses, énormément d'ouverture sur le monde. Et si on regarde la saison 1 de RuPaul Drag Race, on est vraiment dans une question de transformisme, mais on est aussi sur des choses que plein de gens n'avaient jamais vues avant. Et donc, d'un côté, on doit dire merci. Et d'un autre côté, forcément, ça a des dérives et tout ce qui se démocratise et qui se popularise vient aussi un petit peu faner des fois la singularité et la préciosité de certaines choses qui sont pas fragiles, mais subtiles, tu vois. Donc, je trouve que c'est à la fois une bonne chose parce que ça nous visibilise, que ça peut donner des opportunités et en même temps, c'est 50-50, quoi. Une mauvaise chose parce que ça vient mettre des cadres autour d'un truc dont l'idée de base, c'est de ne pas avoir de cadre et de décloisonner.
Donc même s'il y a toujours des choses à améliorer, il y a quand même plein de points positifs, n'est-ce pas Violetta?
Bah, je trouve ça trop chouette que ça devienne de plus en plus populaire, parce que ça voudra peut-être dire moins d'agression, plus de considération lorsqu'on vient démarcher dans des bars pour venir. Moi, je trouve que ça donne l'envie, la volonté à plein de gens d'essayer, même si ça prend pas pour tout le monde, mais genre juste d'essayer, des fois, c'est trop bien. Et à Rennes, c'est vrai qu'on est hyper soudés là-dedans et il y a plein de baby drag tout le temps. J'ai l'impression que c'est un baby boom du drag à Rennes et c'est trop bien parce que plus on est, plus on peut expérimenter plein de choses. Enfin, l'idée, c'est de garder quand même une bienveillance aussi et j'aimerais pas qu'il y ait une sorte de rivalité qui puisse s'installer ou quoi, en fait.
Et donc, quoi qu'on en pense de Drag Race, et même si on a encore des choses à reprocher à cette émission, n'oublions pas que ça a permis quand même aux drags du monde entier d'être reconnus, d'être plus respectés et de créer plein de baby drags. Donc, personnellement, j'espère que ça va continuer à se démocratiser et que ça va permettre d'ouvrir un peu plus les mentalités. Et comme l'a dit Violetta, de limiter les agressions et rester très bienveillant. Lucie, est-ce que l'émission t'a plu ?
Eh bien, oui. Tout à fait, l'émission m'a plu, Camille.
Tu en as appris des choses ?
Oui, j'ai appris plein de choses. Et comme on a beaucoup répété ce truc-là, mais c'est vrai que ça fait toujours du bien de parler de choses dont on ne parle pas vraiment et dont on connaît peu de choses, quoi. Donc voilà, et je trouve le mot baby drag super cute.
C'est Violetta qui l'a dit, et moi aussi je trouve ça très mignon comme mot. Et donc, même si on n'en a pas parlé, je tiens quand même à préciser de la part de toutes les drags que si vous allez voir un show de drag, vous ne pouvez pas les toucher, ça paraît évident, mais ça ne se fait pas. Mais apparemment, ça arrive quand même pendant les shows. Donc, ça reste des êtres humains comme tout le monde, pas des objets, et vous n'apprécierez pas qu'on fasse la même chose avec vous. Donc, le faites pas. Et puis, bien sûr, restez bienveillants. Je trouvais que c'était important quand même d'en parler, surtout que toutes mes invitées... On en parlait et je tenais quand même à préciser. L'émission touche bientôt à sa fin, vous êtes toujours sur Radio SV.
SV Radio, SV Radio, SV Radio. Survive R&B. RSV, au plus proche de toi.
Alors voilà, c'est la fin de l'émission déjà. Je remercie Violetta Xidermi, donc une drag queer, Fragile de France qui est une drag queen et Léo Roméo qui est un drag king de m'avoir d'avoir répondu à mes questions et d'avoir accepté de participer à mon émission. N'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram, je l'ai déjà dit, mais ça fait toujours plaisir d'aller les suivre sur Instagram. Donc c'est Violetta Xidermi, Fragile de France et Léo Roméo King, du coup, sur Instagram. Et n'hésitez pas aussi à aller suivre les autres drags de Rennes, il y en a plein. Je peux citer Evaporé, Giant Jasmine... Anne-Marie Condom, j'en oublie, j'en suis sûre d'en oublier, mais il y en a plein sur Rennes. Il y a aussi le collectif Dragopole Rennes, je crois, sur Instagram, que vous pouvez aller suivre, aller les soutenir. Et je le redis, les interviews seront en intégralité sur le site de Radio Saint-Vincent. Et vous pourrez aussi retrouver l'émission en podcast sur Radio Saint-Vincent si ça vous a plu. Je vous rappelle les réseaux, donc YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok, donc pareil, Radio Saint-Vincent. Je voudrais aussi vous dire que Lucie Le Belair, qui m'accompagne aujourd'hui, fera son émission le 8 février.
Oui.
Et qu'est-ce que tu peux nous dire en deux mots ?
Eh bien, je vous parlerai, enfin, je serai accompagnée même de l'association S'éveiller, qui est une association de formation et d'ateliers d'art oratoire. Voilà,
merci beaucoup. Merci d'avoir participé avec nous.
Merci
et
à toi.
Je remercie Gurvan Rouxel d'avoir fait la réalisation de cette émission.
Vincent. Au cœur de Rennes Métropole.